Are you racing or watching?
La dispute.
Art plastique.
Arnaud Laporte.
Et autour de moi ce soir, Corinne Ronto, Yasmine Youssi, Ingrid Lukegan, pour parler ensemble de La Bête, un conte moderne de Yasmina Ben Abderrahman. C'est au bal, le supermarché des images, c'est une exposition au Jeu de Paume. Claudia Andujar, la lutte Yanomami, c'est à la Fondation Cartier. Puis il y aura un coup de cœur de Corinne Ronto qui nous emmènera au Musée des Beaux-Arts de Lyon pour parler d'exposition drapée. Et nous ouvrons cette dispute avec l'exposition que consacre le bal à Yasmina Ben Abderrahman, deuxième lauréate l'année passée du prix Bal de la jeune création. Elle est née en 1983, elle est diplômée des Beaux-Arts de Paris, du Frénois. Ce prix de la jeune création, il offre à la lauréate un accompagnement sur 2 ans pour réaliser un projet de création qui inclut donc cette exposition en cours intitulée La Bête, un conte moderne. Il y a également la publication d'un livre coédité par le bal et MacBook. Les commissaires de l'exposition sont Adrien Genoudet et Diane Dufour. Avant même d'ouvrir le débat critique, pour savoir de quoi l'on parle, Yasmine Youssi va nous présenter peut-être un peu ce travail.
Oui, pour moi c'est plus une installation en fait qu'une exposition, c'est vraiment comme ça que je l'ai ressenti. Vous êtes quand vous arrivez au bal, alors c'est sur les deux étages du bal, le rez-de-chaussée, le sous-sol, vous êtes accueillis par trois petits films très jolis qui un peu vous présentent les personnages de cette installation, la grand-mère de l'artiste et puis son oncle, chacun dans son univers, la grand-mère chez elle, l'oncle dans la vallée, je pense que c'est la vallée du Bourgrain, qui est en fait une vallée qui se trouve à l'entrée de Rabat. Quand vous atterrissez à Rabat et pour aller à Rabat de l'aéroport, vous passez par la vallée du Bourgrain et l'oncle est géologue. Et c'est lui qui a été chargé je crois si j'ai bien compris, la solidité des sols pour construire un théâtre. Le théâtre de Zaha Hadid, c'est elle qui a fait
immense fait les plans, voilà. Salle, hein, qui est vraiment
immense salle, oui,
terre qui va bientôt ouvrir.
Alors je ne sais pas si elle va bientôt ouvrir, si. Mais elle est assez attendue à Rabat, cette salle, même s'il y a un tout petit théâtre en ville.
C'est immense. Palais de culture.
C'est immense, mais Rabat est en train de devenir une ville culturelle et le réussit plutôt bien. C'est vraiment avec une attente des habitants. Et donc au rez-de-chaussée, vous avez 9 autres petits films comme ça qui mettent en parallèle des images du chantier, de la construction en noir et blanc, et puis des gestes un peu ancestraux des Marocains, comme une femme qui met du kohl dans les yeux, ou bien tout ce qui a trait, les gestes qui ont trait à la manière dont on prépare le mouton après l'Aïd, la fête du mouton, quoi, une fois qu'on l'a égorgé. Voilà.
Premier tour de table rapide pour accueillir un premier sentiment sur cette exposition de Yasmina Ben Abderrahman. Corinne Rondeau.
Oui, un travail très formaliste et en même temps hanté par, je dirais, les raccords et l'absence de raccords entre les projections.
Ingrid Lukegan.
J'ai trouvé que le flou poétique desservait le sujet.
Et enfin, Yasmine aussi.
Oui, un petit peu. Moi, j'ai trouvé que ça desservait le sujet. Je suis curieuse de savoir comment mes confrères ont reçu cette exposition, parce qu'il n'y a absolument rien. Aussi, il faut prendre le petit livret qui est donné à l'accueil et le lire, parce que sinon, on est un peu largué.
Bon, avant vos confrères, vous avez des consoeurs ce soir ici. On va en profiter. Non, mais peut-être que vos confrères aussi vous intéressent en dehors de ce studio. Là, vous avez des consoeurs. Bon, je ne m'inclus pas, mais je pourrais m'y inclure. Corinne Rondeau. Qui n'a pas trouvé le livret, mais qui a quand même des choses à dire, voyez-vous.
Oui. Non, le travail est assez formaliste, même si la dimension, je dirais, de la matière filmique et du Super 8 en particulier, avec un gros grain. Vous avez parlé de noir et blanc, Yasmine, mais il y a aussi de la couleur. Et elle a aussi une manière de filmer les choses, c'est filmer monter, c'est-à-dire qu'elle tourne en même temps. Le montage se fait en même temps qu'elle filme, donc elle arrête, elle saccade. Donc ce sont des images à la fois qui sont mises en boucle sur chaque écran, mais des boucles dans lesquelles sont insérées d'autres boucles, et en même temps on a des rythmes très différents d'un écran à l'autre. Alors c'est vrai que le premier niveau est un accueil qui relève, je dirais, d'une filiation, comme vous l'avez dit, entre la grand-mère qui va, dont on voit les pieds en gros plan, qui est une manière de danser pendant l'Aïd, mais qui sont une étrangeté pour nous, d'une certaine manière, parce qu'on le connaît pas. Et puis le grand-père, l'oncle, le géologue, et aussi certains... celui, le chef de chantier de ce grand théâtre qui va être construit, qu'on voit traverser la terre argileuse, qui ramasse de cette terre, cette poudre, qui met de la salive, et on le voit rouler comme ça et faire de la manifester à travers un geste simple ce rapport entre la salive, la terre, pour voir effectivement la densité. Et puis en bas, effectivement, tout un rapport formel qui passe entre des formes circulaires du chantier, des machines, mais aussi des gestes ancestraux, vous l'avez dit, qui sont la bête qu'on va tuer. On la voit pas exactement se faire tuer, on voit du sang, mais c'est en noir et blanc, donc on l'imagine puisqu'on a eu une bête. Puis vous avez en bas surtout les deux parties latérales du sous-sol. Vous avez des écrans suspendus et inclinés, donc vous pouvez les voir de recto verso, mais vous avez deux grandes projections sur les murs qui se font face. Alors d'un côté vous avez les poumons du mouton dans lesquels on souffle dedans pour voir si c'est un mouton qui a un bonne santé, et on peut effectivement le manger puisqu'on ne jette rien du mouton. C'est comme le cochon chez nous, hein, on mange tout. Et de l'autre, vous avez une grande image aussi de main qui est en train de dégrainer un bracelet religieux, enfin je ne sais pas le nom.
C'est un chapelet.
Un chapelet, voilà. Et donc vous avez là à la fois les mains, c'est toujours le travail des mains et c'est le rapport du geste. Et je trouve qu'il y a une grande beauté de cette filiation entre la grand-mère qui est le corps, l'oncle qui est la terre et cette nièce, cette petite fille qui est la pellicule. Et en fait, elle fait porter cette mémoire à l'intérieur de sa fabrique, sa propre fabrique de se filmer monter, qui est une manière très particulière finalement de produire de l'image, dont elle dit d'ailleurs qu'elle ne va pas le développer tout de suite pour avoir un rapport déjà mémorial à tout ce qu'elle a vu. Donc je trouve qu'il y a dans son rapport aux images, entre la construction, comment construire ça, et puis en même temps ces gestes très lointains qui remontent à un rite ancestral de l'Aïd, il y a en elle le rite et qui est le filmage. Et je trouve qu'il y a quelque chose de très très beau dans cette conception, je dirais, de tisser des images malgré les syncopes qu'il y a dans le film, puisqu'il faut tracer des fils qui ne sont pas là, qui sont absents.
Ingrid Lukegan.
Oui, alors effectivement, c'est vrai que l'expression de flou poétique me paraissait vraiment le plus juste par rapport à ce qu'on ressent quand on rentre dans l'exposition, c'est-à-dire, bon, c'est très beau. Effectivement, c'est un travail très formel sur la manière dont on peut traiter ces différentes textures, ces différents fragments, dans un paysage qu'on a l'impression comme ça être envahi de poussière, puisqu'elle nous fait ressortir l'entre-deux d'un Maroc entre tradition et entre construction. Donc on sent qu'on est vraiment dans ce moment de poudroiement où rien n'est encore sorti de terre. Mais j'ai quand même trouvé qu'il y avait une espèce de formalisation extrême du travail qui est peut-être aussi un tropisme très très occidental, très français, puisque j'ai énormément pensé au travail de Clément Cogitor, qui lui-même auparavant était également lauréat du même prix, du prix de la jeune création de la DAGP.
Également venant du Frénois.
Et qui vient également du Frénois. Et j'ai quand même trouvé que cette histoire de récit en acte, de fragments filmiques, d'histoire aussi entre croyances, entre autarcies, sur un instant de bascule comme ça, de civilisation, les formes me paraissent quand même extrêmement similaires. Et je trouve que c'est très dommage puisque sa matière à Yasmina Ben Abderrahmane est vraiment très intéressante. C'est vrai qu'on a absolument envie de savoir qu'est-ce qui se passe dans ce Maroc qui est comme ça un des pays sans doute les plus dynamiques du moment, où il y a une vraie révolution jeune, mais où il y a justement une révolution qui passe par l'image, où on sait que les printemps arabes justement sont intégralement, ont été vécus par l'image, pour l'image. Et donc je trouve ça très dommage en fait qu'on n'ait pas non plus la mesure de cette révolution de l'image qui se passe dans ce pays-là, alors que l'artiste a précisément l'âge pour y retourner. Et elle dit d'ailleurs que c'est le moment où elle retourne justement au Maroc après avoir fait ses études d'élève brillante en France, puisqu'elle est passée par les Beaux-Arts de Paris, elle est passée par le Frénois, elle a eu le prix Montrouge et le prix Jeune Création. Donc a priori, ça serait le moment parfait pour elle de retourner au Maroc et de voir un peu avec le recul ce qu'elle pourrait en faire, mais pour l'instant, on n'en est pas là.
Mais je crois qu'il y a quelque chose justement dans cet exil, parce que c'est quand même au fond un exil, je crois qu'il y a 14 années avant 12. Je crois qu'elle est revenue en 2012, après 12,
je crois qu'il y a
12 ou 14 ans, enfin un long temps, et surtout à cet âge-là, en dehors du pays, ce qui fait qu'il m'a semblé que moi aussi que c'était plutôt la question de revenir sur l'origine, sur la terre, sur le sol, enfin il y a quand même quelque chose, peut-être qu'elle viendra dans un deuxième temps, avec Luc Egan, à ce que vous souhaiteriez sans doute voir d'elle, mais il faut quand même se réenraciner peut-être aussi dans cette terre, Yasmine aussi.
Mais moi ça m'est paru un peu artificiel en fait, ces rapprochements entre tradition, modernité, entre d'avoir choisi le théâtre et puis la fête de l'Aïd, pour moi, il y a quelque chose de... Les films sont très beaux. Corinne en a parlé avec beaucoup de justesse. Les couleurs sont très belles parce qu'elles sont à l'image de cette terre ocre. Pour ce qui est des images des poumons, des images en couleur. Mettre en parallèle les deux presque en les opposant, c'est un peu méconnaître le Maroc, parce que justement c'est un pays qui depuis toujours vit entre tradition et modernité, l'assume plutôt. Là, surtout à Rabat, surtout par rapport à ce théâtre, surtout par rapport à ce qui est en train de se passer. Tout ça me paraît...
Pas juste ?
Pas très juste, pas très juste. Et effectivement, il y a beaucoup de données, je trouve, qui manquent quand l'aspect documentaire, je trouve, est complètement évacué. Alors que d'habitude au bal c'est aussi l'image documentaire sous toutes ses formes. Là j'ai trouvé que c'était complètement évacué et finalement ça donne quelque chose d'un peu artificiel.
Oui, mais j'entends bien, mais en même temps, alors c'est vrai, j'étais juste en train de relire la définition du prix, enfin le prix Jeune Création avec la DAGP. Pour vocation d'accompagner donc la création en s'inscrivant dans le spectre large de l'image document fixe et en mouvement, questionnant notre expérience humaine. C'est le spectre très large. Elle est à un bout du spectre qui vous intéresse peut-être moins, qui alors, je pense.
Non, au contraire, ça m'intéressait beaucoup, justement, parce que
le sujet. Elle est au bout d'un spectre qui vous intéresse moins parce qu'il est plus, alors on va dire comme ça, artistique, que documentaire, plus créatif de l'image, du traitement de l'image.
Mais je crois
que de la réalité d'un Maroc. Aujourd'hui, il y a des sociologues pour ça, il y a des historiens. Moi, j'aime bien qu'il y ait un peu d'exposition sans sociologie. Ça me repose de beaucoup d'autres, en fait.
Ouais. Luc Egan. Moi, je me pose quand même la question comment on peut, à son âge encore, utiliser ce type d'image. Enfin, ça me paraît très daté, comme ça.
Pourquoi il y a un âge
hein. Pour moi, il y a une espèce de fétichisme aussi du médium. Enfin, moi, c'est pas du tout... Elle peut tout à fait filmer les textures. Enfin, je trouve ça assez juste, la manière dont elle a découper son sujet, mais c'est vraiment ce filtre artificiel de l'image qui fait que j'ai l'impression de contempler des polaroïdes qui ont séché au soleil comme ça, avec cette couleur un peu fanée. Et je comprends pas trop, à part une fascination pour son médium, pourquoi elle aurait choisi cette texture d'image-là pour la réalité dont elle veut rendre compte. Enfin, c'est vrai que c'est très beau, mais si on prend pas le temps de lire les explications ou de prendre le document explicatif, on sait pas du tout à quelle période on se situe.
Est-ce un mal ? Bon, je vous pose des questions. Yasmine aussi rajoute quelque chose et Corinne Rondeau reprendra la parole.
Oui, non. C'est ça, en fait, ce qui m'a gênée, c'est que d'un point de vue plastique, je trouve que ça n'apporte pas grand-chose. C'est beau, mais ça va pas au-delà de choses que je peux avoir déjà vues et que d'un point de vue du point de vue du fond, ça m'apporte pas grand-chose non plus, au contraire. C'est ça qui m'a gênée.
Bon, c'est, moi je trouve que c'est déjà pas mal, déjà vu, mais
c'est beau.
Qu'il faut toujours
c'est
qu'on ait du jamais
c'est
vu. Est-ce qu'on n'a pas le droit d'utiliser une technique qui est utilisée depuis des années?
C'est incroyable à quel point le frénois peut faire école quand même.
Dans oui, mais c'est pas vraiment vrai, je pense. Mais bon, ça c'est notre problème de la visibilité de celles et ceux qui en sortent. La visibilité va peut-être toujours vers les mêmes par une paresse du milieu de l'art. Il y a des tas d'esthétiques qui existent encore aujourd'hui au frénois et on les voit pas toutes aussi mises en lumière. Corinne Rondeau.
Oui, j'ai un peu de mal à entendre mes consoeurs, en fait. Parce que oui, c'est vrai que le beau, ça suffit, mais je crois qu'en fait, c'est une installation qui demande, et je suis d'accord avec le mot d'installation, qui demande du temps.
Oui.
Je pense que ne pas rester devant, moi, j'avais pas la plaquette explicative.
Moi, je l'ai prise après, donc, on me l'a donnée après, en fait.
Il se trouve que je trouve, et là, pour le coup, on peut être surpris par un médium qui a déjà utilisé, mais en fait, on ne cesse que de réutiliser ce qui est déjà là. Je veux dire, inventer avec une nouvelle technologie, je vois pas en quoi ça serait mieux ou pas mieux. Enfin, je pense qu'on n'a pas apporté un jugement de valeur sur le médium utilisé. Je crois au contraire qu'il a une dimension, et quand vous dites, Ingrid, que on ne sait pas à quelle époque c'est justement ça qui est intéressant, dans la mesure où pour moi, vraiment, ce travail, dans un premier temps, est sec, et dans un deuxième temps, il y a des choses qui se déploient à cause, justement, de la manière dont elle travaille. Et je reviens sur cette idée filmer-monter, qui est une pratique manuelle. Et tout ce que nous avons là, ce sont des ouvriers qui vont tirer le béton. C'est une machine qui excave, c'est la terre, c'est la terre de l'oncle, qui est géologue, mais qui est aussi sur les chantiers. Il y a quelque chose vraiment d'une ritualisation qu'elle réintroduit à travers le film, c'est-à-dire à sa pratique, à son outil. Et je trouve que c'est une manière de ritualiser les gestes, hors même des gestes qui sont d'origine, puisqu'elle a perdu l'origine. Et pour moi, ce travail qui est dans la syncope, et qui en même temps, qui est en train de créer... La bête, en fait, c'est le hors-champ. Et tout ce dispositif, il travaille sur ce qui n'est pas présent. On voit pas vraiment un ouvrier, on voit pas vraiment l'Aïd, on voit des gros plans de pieds de la grand-mère avec le aîné, on voit un gros œil qui ressemble à un Buñuel quand on coupe l'œil. C'est pour moi, si vous voulez, ça retisse et ça refait de la surface pour mettre des objets et des vies sans avoir à imiter leurs fonctions et les héritages. C'est-à-dire que la bête, elle témoigne que ça s'agence, c'est tous ces écrans, et ça agence de la mémoire là où l'histoire, elle est perdue, y compris pour elle. C'est pour ça que c'est un exil et qu'elle va faire ce qu'elle peut avec cette histoire perdue, puisque c'est vraiment une histoire personnelle et non pas une histoire du Maroc.
Oui, mais...
Allez, dernier commentaire, Yasmine.
L'opposition, mais vraiment, l'opposition entre les deux, pour moi, ne fonctionne pas et fonctionne encore moins à Rabat, quoi. Il y a quelque chose...
C'est parce que vous connaissez trop Rabat, Yasmine Ben Abderrahman, trop peu. Et c'est pas le même regard.
Mais c'est vrai que ce regard sur Rabat-là...
Vous êtes peut-être la plus mauvaise spectatrice, en l'occurrence, de ce travail-là.
Je vous assure que c'est très
probable. Non, mais c'est pour ça que je le dis, c'est pas...
C'est vraiment les villes que j'ai...
Yasmine, mais... Oh, et donc, Yasmine, je n'arrive pas à dépasser ça, et même d'un point de vue plastique. Alors, je suis pas d'accord avec vous sur l'utilisation.
C'est la vallée des potiers. C'est à la vallée des potiers que doit être ce grand théâtre. Et ce qui est beau, c'est l'idée que construire une image, c'est sceller des gestes. Je trouve ça absolument merveilleux. Et c'est quand même une certaine manière de parler de ce lieu qui est quand même la vallée des potiers, et que le seul à être resté, c'est le berger, c'est-à-dire le nomade. Enfin, tout ça se croise avec une. Moi, je trouve que tout ça.
Vous irez là, retourner voir cette exposition avec Corinne. Rondeau.
Non, j'emmènerai Corinne Rondeau à Rabat.
Mais alors, avec
la ville qui, au Maroc, a le mieux réussi, justement.
Ah, vous l'avez déjà dit, je crois.
Son urbanisme, qui a le mieux réussi à conserver son passé tout en se projetant sur l'avenir, qui a le mieux par rapport à la culture.
Ce programme vous était présenté vraiment par l'Office culturel touristique de la ville de Rabat. Bon, allez voir d'abord au bal La Bête, un conte moderne de Yasmina Ben Abderrahman. C'est jusqu'au 12 avril. Et il y a un livre qui accompagne cette exposition, édité par Le Bal et Mac Books. Où est-ce qu'on vous emmène ensuite? Dans le supermarché des images, en Amazonie et dans les drapés.
France Culture. La dispute. Arnaud Laporte.
Suite de cette dispute art plastique avec le supermarché des images. C'est en ce moment au Jeu de Paume. Le commissaire général en est Peter Zandi, les commissaires associés Emmanuel Aloua et Marta Ponsa. Avant même d'en parler, on va écouter Peter Zandi, invité des Chemins de la Philo sur France Culture le 22 décembre 2017.
Les mouvements même du regard sont inscrits dans un système économique de production de la valeur. Je vous en donne un exemple très concret. Il y a toutes sortes de travaux scientifiques qui ont une longue histoire maintenant, mais dont les applications contemporaines sont de plus en plus frappantes et importantes. C'est ce qu'on appelle l'oculométrie. C'est-à-dire, il y a des appareils, des capteurs qui permettent de détecter les micro-mouvements des yeux, ce qu'on appelle les saccades oculaires. Donc, si vous regardez à droite, à gauche, en haut, en bas, et ça se passe très très vite, donc l'œil ne cesse de produire ce genre de saccades. Eh bien, ces techniques d'oculométrie ont toutes sortes d'applications aujourd'hui. Par exemple, sur certains écrans de téléphone portable, si vous regardez à droite, alors vous mettez l'écran en veille, si vous regardez en haut, en bas, vous faites défiler le texte. Donc il y a une espèce de performativité immédiate du regard. Le regard fait quelque chose. Mais la question, c'est que quand regarder, ça devient faire, eh bien, il y a des enjeux économiques immenses.
Tout va trop vite, oui, faut que ça s'arrête. Tout va trop vite, oui, faut que ça s'arrête. J'aimerais réfléchir 2 secondes, si je puis me permettre. Oui, faut que ça s'arrête, je peux plus suivre le rythme. Oui, faut que ça s'arrête. Ah, si je pouvais appuyer sur stop.
On ne va pas appuyer sur stop tout de suite, il nous reste quand même 35 minutes. On va en profiter pour ce riche programme. Et avec cette question quand même concernant le supermarché des images au musée du jeu de paume, Corinne Rondeau, c'est quoi le sujet de l'exposition?
Je vous remercie pour cette question du supermarché.
Mais je vous ai prévenu à l'avance.
Oui, je sais. Quand même le dire. Alors je vais tenter l'affaire. Écoutez, cette exposition, en tout cas, on peut partir d'une chose, d'un constat, c'est que c'est la mise à l'épreuve, voire parfois l'illustration d'un discours, puisque ça s'est tiré, c'est issu du livre de Peter Sandy. Le supermarché du visible. Donc en fait, c'est d'abord, cette exposition est d'abord un discours.
Ouais.
Et il faut pas négliger qu'effectivement, en général, le régime des discours, ça produit quand même aussi les formes des images, ou même inversement. Et c'est à l'intérieur de ça que se produit l'exposition bref, j'y viendrai tout à l'heure. Donc c'est un discours qui impose un point de vue. Sur quoi ? Il impose un point de vue sur la circulation des images, qui est dite l'économie du visible, selon une version globalisée qu'il appelle économie, et oikonomia,
Économie.
Donc il définit la manière de saisir les lois de la circulation et des échanges des images. Donc, il nous dit qu'il y a un grand bouleversement, qu'on est débordé par les images. Il y a plus de 3 milliards en 2015 d'images qui ont été échangées. Et à l'intérieur de ce réservoir gigantesque, il y a effectivement des choses qui se produisent et qui ne sont pas non plus vues. Donc, c'est aussi la part d'ombre. Et on peut se reporter notamment la première œuvre qu'on voit en arrivant, qui est toute une tapisserie d'images par l'artiste Evan Ross, qui s'appelle « Since You Were Born », depuis que tu es né, puisqu'il a pris les photographies depuis la naissance de sa fille en 2016. Et en fait, il va mettre aussi toutes les images du cache web. C'est-à-dire que chaque fois qu'on a accès à un site, votre ordinateur mémorise des pages d'images, mais que vous ne voyez pas. Donc ça, c'est la part d'ombre, on va dire. Et qu'effectivement, toute la dimension de l'image numérique aujourd'hui montre qu'il y a une visibilité la production de la visibilité n'est pas non plus visible. Donc il y a cette espèce de gigantesque réservoir où il y a des images qui sont visibles et d'autres pas, qu'il y a aussi dans cette exposition la volonté à la fois d'offrir des images de l'économie et l'économie des images, à la fois ce qu'elles montrent et ce qu'elles agencent autour de l'échange et aussi ce qu'elles échangent entre elles. C'est-à-dire que ça pose la question de ce qui disparaît dans l'apparaître. C'est pas une apparition, c'est dans l'apparaître. Et effectivement, l'apparaître, toute cette organisation par ces dispositifs d'image. C'est-à-dire, c'est la part d'ombre qui produit cet apparaître. C'est-à-dire les caches. Donc c'est une sorte de. Alors moi, j'ai pas tout à fait compris.
On y vient alors dans un instant. Mais vous vous avez cité le chiffre de 3 milliards d'images partagées l'an dernier.
En 2015, non, je crois.
Oui, en fait, c'est par jour, hein, sur les réseaux sociaux. C'est pour dire à quel point.
Oui, bon, voilà. Vous savez, on n'en est plus là.
Un peu quand même, justement. Mais alors, un premier tour de table, pour un premier avis. Ingrid Lukegan.
Moi, j'ai trouvé ça très littéral. Après, pour la teneur des œuvres, on y viendra après. Mais pour moi, c'est un peu le symptôme de l'exposition de philosophes, de l'exposition faite à partir de concepts qui, à trop vouloir démontrer, oublie de montrer des choses.
Yasmine aussi.
J'ai rien compris.
Et Corinne Rondeau.
Écoutez, comment ce flux d'images façonne notre regard, je prends. Mais l'expérience de l'exposition m'a laissé pantoise.
Pantoise, alors également peut-être Ingrid Lukegan.
Alors moi j'ai eu une impression très très bizarre au niveau des œuvres présentées, parce que ça m'a paru à la fois très ringard et très daté. C'est-à-dire il y a comme ça une texture type bug de l'an 2000 ou année 2010. C'est-à-dire où on réfléchissait encore sur la matérialité des images numériques. Il y a comme ça une grande fascination pour le bug, le glitch, le pixel. Enfin, c'est des formes assez datées. On a l'impression que tout le courant post-internet des années 2008 à 2016, où justement on s'est efforcé de montrer combien on ne pouvait plus séparer entre la vie connectée et la vie réelle, combien on s'est efforcé de montrer par des formes justement qu'Internet, que les formes virtuelles pénétraient la matérialité même, bah c'est comme si cette parenthèse avait jamais existé. Et donc on se retrouve comme ça à une époque où on faisait encore du netart, où on postulait que les images apparaissaient forcément sur un écran, parce qu'on c'est quand même une image, c'est une exposition avec où les images ont encore un support. On pense pas du tout au fait que les téléphones ont émis une par la main, tout ce côté haptique est perdu. Donc on est comme ça dans une exposition très datée. Et en même temps, il y a un anachronisme total qui se rajoute par-dessus cette texture-là, c'est-à-dire que les sujets sont pris de manière très littérale, c'est-à-dire on a des œuvres qui vont traiter d'argent, qui vont traiter d'enrichissement, et donc qui balaient comme ça un paysage qui passe par Casimir Malevitch, Victor Vasarely, Sophie Kahl, on ne sait pas trop ce qu'ils vont faire là. Et en même temps, c'est vrai qu'en regardant la liste d'artistes, il y a certaines grosses figures qu'on ne voit jamais en France, qu'on aurait été content de voir, comme Ito Steyerl par exemple, comme Trevor Paglen, comme Lorraine Huret qui a été exposée au Centre culturel suisse. Mais ce sont les mauvaises œuvres qui sont montrées. C'est des œuvres totalement anecdotiques. Ouais. Là où, par exemple, Trevor Paglen fait un travail absolument fascinant à la Fondation Prada en ce moment sur la reconnaissance faciale. Justement, il montre à quel point les algorithmes sont biaisés et ont des préjugés de race et de sexe. Donc là, on serait plus dans une matière comme ça où on montre combien la vie numérique influe sur les comportements de la vie réelle. Et alors, on montre de lui deux pauvres photos. On voit des câbles sous-marins, mais bon, si on ne le disait pas, on ne le verrait pas. Et voilà, et la vidéo d'Ito Steyerl, ça me paraît aussi assez problématique, puisque j'ai l'impression quand même que cette grande théoricienne et vidéaste allemande qui écrit depuis les années 2013, et qui pour moi est celle qui a le plus compris justement l'imbrication entre l'image et économie, on a l'impression quand même que le livre de Peter Sandy est un peu une redite, certes en français, puisque les ouvrages d'Ito Steyerl ne sont pas traduits, mais qui vient quand même à peu près 5 ans trop tard.
Yasmine aussi n'a cessé d'opiner.
Oui, parce que tout ce que vient de dire Ingrid était très très juste, c'est exactement ce que j'ai ressenti. Alors, au-delà du discours et du verbiage, mais vraiment c'est caricatural et imbitable, ces textes qui ne veulent rien dire et qui sonnent creux pour expliquer qu'en fait, des choses qu'on comprend pas, si ce n'est qu'il est plus ou moins question de l'économie des images et de l'image de l'économie en images. Enfin, j'ai plus ou moins compris ça. Moi, ce qui m'a le plus gêné, c'est la pauvreté et le peu d'intérêt des œuvres, quoi. Ce côté littéral, donc on a une exposition qui s'appelle le supermarché des images, et tout de suite, l'une des premières œuvres auxquelles vous êtes confrontés, c'est ce caddie doré de Sylvie Fleury, mais c'est juste le degré zéro de ce qu'on peut vous montrer, quoi. Il y en a une autre, dont le bidon de pétrole poisseux de Minerva Cuevas, et sa marine qui est coupé en deux avec une partie c'est un tableau, une autre partie c'est du pétrole qui coule, mais au secours quoi, au secours. Mais il faut vraiment avoir une très 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 pauvre connaissance de l'art contemporain, de la photo, de l'art en général pour oser présenter ça comme une immense réflexion quoi sur je sais pas quoi, je sais toujours pas. Alors il y a autre chose qui m'a quand même beaucoup gênée, c'est qu'effectivement, comme vous le disiez, quand ce sont des grands artistes, eh ben ce sont les photos les œuvres les moins intéressantes. Et puis on a, je vous parle même pas des œuvres qui sont hors sujet. Je comprends même pas ce que fait Maurizio Cattelan avec ses ascenseurs.
Corinne Rondolet, l'explication.
En fait, j'ai acheté son livre hier. Le supermarché du visible. Ah. Et en fait, c'est développé dans son livre l'ascenseur.
Oui, mais enfin, s'il faut acheter les livres maintenant pour comprendre les expos, c'est un peu gênant.
Je me suis bien d'accord avec vous parce que comme vous, j'ai été un peu perplexe.
Non, c'est des œuvres, on se demande ce qu'elles font là. Il y a d'autres œuvres, on se dit quand même que c'est pas très honnête de tordre comme ça le sens des œuvres pour absolument vouloir les faire rentrer dans cette exposition. J'étais très heureuse de voir la vidéo de Richard Serra, Hand Something, The Hand Catching Lead, où vous avez une vidéo qui date de 68. On les voit pas souvent. Non, j'ai pas compris le lien avec. Enfin, pour moi, c'est vraiment une catastrophe, ça prend absolument tout le jeu de paume. Bienvenue à Quentin Bajac qui vient de prendre la direction du jeu de paume depuis quelques mois et j'espère que ça va donner lieu à une toute autre programmation.
Corinne Rondeau.
Oui, je suis très embêtée, et d'autant que effectivement, je me rappelle d'un texte de Sekula quand même de 81 qui s'appelait Le trafic de la photographie, et dans lequel il y avait déjà cette idée que la photographie, là en l'occurrence, c'était le produit d'un régime du discours et que l'image elle est toujours impliquée dans un trafic économique. Ça a 40 ans. Et d'une certaine manière, quand c'est littéral avec ce billet de l'argent de Bresson qui est une reprise en fait de Deleuze dans Image Temps, qui est dans son livre Le supermarché du visible, et qu'en fait c'est une manière d'expliciter la dimension des images entre elles, et qu'il y a toujours une image entre, et que c'est l'interstice, et on se dit mais c'est le rudiment de ce qu'on apprend sur ce qu'est le cinéma des étudiants de première année. Et je trouve que son livre, il est pour le coup, il y a pas
zéro.
Je suis j'ai acheté le livre, je vais le donner, mais je trouve qu'il y a une vraie réflexion à avoir, notamment quand il utilise le mot de machine. J'ai envie de dire stop, on n'est plus au siècle de Walter Benjamin, même s'il le cite. On est quand même à un autre siècle dans lequel l'activité de l'image n'est pas du tout c'est la vitesse, c'est pas la question des flux qui est un réservoir du 19e siècle avec toutes les images qui en a beaucoup produites. Là, on est dans une ultra, OK, il y a un débord, OK, où on en est, OK, on a, mais je veux dire, à un moment donné, quand il y en a trop, la seule chose c'est d'arrêter le flux. C'est ce qu'il veut faire avec des œuvres qui sont celles qu'on a. C'est-à-dire que l'idée de toutes les images là collées, c'est une manière de dire regardez les images, elles prennent l'architecture du monde. Quand vous avez Gursky avec les objets de Amazon, c'est les objets contre les images, la dématérialisation contre les objets, et tout est comme ça. Vous avez la caverne de Platon.
Je vais arrêter votre flux parce qu'il faut qu'on pense
au
Yanomami. Si vous voulez parler des Yanomami, c'est une grille qui finit.
Du coup, je pense quand même qu'il faut savoir créer au jeu de paume d'ouvrir le débat sur les images. C'est vrai qu'en France, on a tendance à parler soit de l'histoire de l'art, soit de la philosophie, et tout ce pan de la culture visuelle nous manque quand même cruellement pour les discours de l'art. Donc c'était déjà peut-être une première chose de poser le débat, d'ouvrir le débat. Mais j'étais assez...
Il y en a quand même quelques-uns qui écrivent intelligemment sur la question de l'image.
Mais alors par exemple, quand on regarde les ouvrages... Quand on regarde les ouvrages dans la bibliothèque, c'est vrai qu'il y a un seul livre de W.T.J. Mitchell, qui quand même est le pionnier de ces textes-là. Il y a son livre Iconologie, mais ça me quand même paraît quand même très peu au milieu de tous les livres de encore Deleuze, encore Benjamin. Et c'est vrai que je pense qu'il faut la chose à faire, c'est d'aller acheter W.T.J. Mitchell, de lire Ito Steyer, et de combler un peu tout ça, déficit de théories sur la culture visuelle.
Allez, on s'arrête là pour le supermarché des images parce que le programme est encore riche. C'est une exposition qu'on peut voir jusqu'au 7 juin au Jeu de Paume. Le catalogue est coédité par Le Jeu de Paume et Gallimard. C'est l'heure du coup de cœur de Corinne Rondeau pour l'exposition Drapé qui se tient au Musée des Beaux-Arts de Lyon jusqu'au 8 mars. Et vous avez oublié vos notes?
Non, j'ai pas oublié mes notes.
Faites des signes.
Non, oui.
Rien de dossier de presse?
Ouais, je l'ai pas. Dans cette exposition Drapée, ben après Léonard de Vinci, vous avez une exposition qui commence, donc vous partez voir un peu ce qui se passe à Lyon, dans ce musée des Beaux-Arts qui fait toujours de belles expositions et dont le musée est formidable. Donc après un prologue, je dirais, qui dit déjà aux visiteurs, nous déplions du pli, puisqu'en fait, on n'est pas dans la question de l'histoire et de la chronologie, on est surtout sur la question de la forme. Donc on a à la fois une suppliante Barberini du 5e siècle avant Jésus-Christ, tout à côté de photographies de Mathieu Pernot, donc entre les migrants et une sculpture antique. Donc d'un coup, on se dit, c'est la question de la forme qui est en jeu. Cette petite salle vous met tout de suite dans une autre salle où vous avez des mannequins, taille, échelle 1, des mannequins en bois, des mannequins en tissu du XVIIIe siècle, où en fait on apprend effectivement que pour représenter le drapé, eh bien on jetait des tissus sur des mannequins, et ensuite vous avez même une étude de Poussin qui démontre qu'en fait il travaillait avec des petits théâtres pour ajuster les postures et évidemment tous les drapés. Donc c'est une sorte de surprise, cette première vraie salle, avec justement toute cette idée que le derrière un drapé, il y a toujours un corps, et que pour aller vers la chair, ben on passe par des mannequins de bois, de tissus, etc. Et donc cette exposition, c'est une manière d'être toujours en mouvement. Ça se déplie, ça se plie, ça se voile, ça se dévoile. C'est à la fois du visible, mais c'est aussi du caché, jusqu'à son fantôme, jusqu'à sa disparition. Et je dois dire que même on peut dire que l'une des œuvres un peu paradigmatiques pour expliquer cette exposition, c'est la vidéo L'homme dans les draps de Alain Fléchard. Vous avez un drapé avec une ombre qui fait un profil, et puis il va tirer comme ça le drapé, le drap, et puis on voit le profil bouger de l'ombre. Et donc cette exposition, elle se forme comme une série de dévoilements qui ne... que rien ne dévoile jamais tout à fait. Donc vous avez des choses qui sont absolument assez remarquables dans ces trois temps, l'atelier, le jet de la draperie, du nu et du drapé, l'anatomie de la draperie. On est vraiment sur des constitutions, on est vraiment sur la fabrication des formes. Et c'est ça qui est intéressant, c'est une dimension très concrète, même s'il y a des très belles œuvres. Il y a une salle merveilleuse avec des pierres de Vicent, de Rodin, l'âge des reins, avec la projection de la chorégraphie d'Anna Alprin, qui est Parade et Unchanges, que j'adore. Vous savez, c'est la pièce où il se dévête. Et donc, c'est très, très beau. Et puis, vous allez jusqu'à la fin, qui est où il y a du clair en beau, mais il y a aussi un achrome de Manzoni, jusqu'au blanc. Et en fait, il y a aussi un Degas merveilleux, je finis là-dessus, un Degas merveilleux pour faire le motif de l'ange. Dessous, en fait, le modèle est une femme. Donc, c'est tous ces rapports voilés, dévoilés, à la question du dédrapage, qui évite le dérapage du voile, puisque la question du voilé et du voile est aussi à l'intérieur de l'exposition.
Drapé, c'est jusqu'au 8 mars seulement, au Musée des Beaux-Arts de Lyon. Et il y a également, évidemment, un catalogue édité pour l'occasion chez Liénard.
France Culture, La Dispute, Arnaud Laporte.
La dernière exposition à notre affiche ce soir, c'est Claudia Andujar, La lutte Yanomami, c'est à voir à la Fondation Cartier. Les commissaires d'exposition sont Thiago Nogueira, assisté de Valentina Tong, avec aussi Léane Sacramone et Juliette Lecorne. Il faut dire que depuis le début des années 70, la photographe d'origine suisse, naturalisée brésilienne, s'est investie dans sa vie, dans son travail photographique pour la défense des Yanomami, qui est un peuple amérindien parmi les plus importants de l'Amazonie brésilienne. Premier sentiment sur cette exposition, Yasmine aussi.
C'est une magnifique exposition et en même temps une véritable expérience en fait que vous vivez à la Fondation Cartier.
Corinne Rondeau.
Une exposition militante.
On entend comme ça. Ingrid Le Quégad.
Bon, moi j'ai trouvé également que c'était d'une puissance folle. Et alors justement par rapport à tout ce qu'on a dit, par rapport aux images qui étaient en retard sur leur sujet ou qui étaient décalées, là justement ce sont des images qui découlent du sujet. On voit vraiment comment elle invente ses techniques par rapport à ce qu'elle essaye de capter.
Thank you. Yasmine aussi encore sous l'emprise des substances amazoniennes.
La compète de banane.
C'est pourtant vous qui allez commencer à nous parler de cette exposition pour laquelle j'ai laissé du temps en vous coupant la parole tout à l'heure, mais c'est pour la bonne cause.
Écoutez, pour moi, Claudia Andujar est une extraordinaire photographe, parce que pour elle, le fond compte autant que la forme. Elle cherche pas à montrer ce qu'elle voit, mais ce que les Yanomami vivent et ressentent. Alors elle va utiliser absolument toutes les possibilités du médium. Elle va en inventer aussi. Elle va aussi bien utiliser une pellicule à infrarouge qui va complètement changer les couleurs de l'image. Et là, c'est une vérité. Il y a cette image qui fait l'affiche, par exemple, cette photo qui fait l'affiche d'un enfant, d'un Yanomami qui flotte dans la rivière, et le bleu est à la fois doux et très présent, comme s'il faisait corps tous les deux, la rivière, et on voit le lien très fort qu'il y a avec la rivière. Elle utilise aussi de la vaseline, elle photographie au plus près. Donc vous avez l'impression de ressentir la forêt, d'être au cœur de la forêt. Dans les cérémonies chamaniques, là aussi elle travaille sur les lumières de manière à ce que vous ayez l'impression de ressentir les transes. L'accrochage, et moi j'ai trouvé l'accrochage fabuleux parce qu'il permet, les photographies sont suspendues par des fils au plafond, mais elles arrivent à hauteur de regard. Donc vous êtes vraiment complètement pris par ça. Et là encore, l'exposition est divisée en deux parties. Il y a une première partie de ces photos. Vous êtes au cœur de la forêt et vraiment, j'ai rarement ressenti ça. Hein. Vous avez l'impression de la ressentir au plus près. Et une autre partie qui est un travail plus documentaire, plus militant aussi, mais pas que. Elle a aussi demandé aux Yanomami de se dessiner et par rapport à dessiner leur place dans le monde, comment ils se voient par rapport au monde, et c'est magnifique. Et puis il y a toute cette série qu'elle a faite des Yanomami qui sont sortis de la forêt. Et là, les photos sont proprement glaçantes, parce que tout ce qui n'était que ordre et harmonie quand ils étaient dans la forêt, tout d'un coup, ils se retrouvent dans un monde. C'est vraiment, enfin, ça devient des mendiants, quoi. Ils sont complètement coupés de leur monde et ils sont livrés à eux-mêmes dans un monde qui n'est pas le leur, et c'est extrêmement destructeur. Et il y a quelque chose dans ces photos qui m'a beaucoup marqué, c'est que le rapprochement, vraiment, on n'y aurait pas pensé une seconde, mais il s'est fait dans ma tête. J'ai pensé à Antoine d'Agata, dans cette manière de photographier une expérience qui lui se photographie toujours, il est au cœur de ce qui est en train de se passer dans ces images, et elle c'est pareil, et ça c'est quelque chose qui m'a vraiment beaucoup marqué. Et puis j'ai une dernière chose.
Mais non, mais vous allez reprendre la parole dans un instant. Si vous n'allez pas tout dire d'un coup, je sais bien que ça fait longtemps que vous n'êtes pas venue, Yasmine, mais quand même.
Très.
Corinne Rondeau. Corinne Rondeau, ça fait longtemps aussi qu'elle n'est pas venue. Bah, vous savez.
Bref, oui. Alors, j'ai pas été preneuse du tout des photographies suspendues. Je trouve que le travail est là où il doit être, c'est là où elle est militante. C'est-à-dire qu'elle est dans. Vous l'avez dit, je suis d'accord entièrement sur la dimension d'implication. Mmh. Son corps est à l'intérieur de cette forêt. La vaseline, la transe, cette manière de suivre la cérémonie Réahu des morts, par exemple. Je trouve qu'il y a une vraie dimension d'existence, et je trouve que le catalogue est mille fois mieux que l'exposition, vraiment. Je trouve que les livres qu'elle a fait, notamment en 78, au moment où vraiment il y a une prise de position et une volonté de créer justement la commission pour la création du parc des Yanomami, avec les gens qu'elle rencontre et qui bouleversent sa vie, où elle arrête le photojournalisme. C'est pas du documentaire, c'est vraiment de l'existence au milieu de ces êtres. C'est ça qui est très fort, je trouve, et que les dimensions hallucinatoires qu'il y a dans les photographies ne sont pas une imitation, une captation de ce qui délire. Elle est dans le délire avec eux. C'est-à-dire que lorsqu'ils disent qu'ils s'aliment, les esprits s'alimentent des chamans, c'est ce qu'elle photographie aussi. Et cet effet par la drogue, notamment, qui prennent cette poudre hallucinogène, elle s'alimente de cet échange. Et je trouve que c'est très fort, c'est que ces photos soient cela et rien d'autre que cela. C'est-à-dire que moi, je la trouve à l'endroit juste où elle dit qu'elle milite. Et d'ailleurs, elle dit « J'ai fait ces photographies pour pas que les livres restent posés sur les étagères. » Et moi, ce que j'ai vu, en fait, avec toute la médiatisation qu'il y a autour de cette exposition, c'est quand même des Occidentaux qui vont voir des gens qui sont en train de mourir depuis les années 70. Donc, on est les spectateurs d'une disparition. Bah, on est quand même d'accord que là, ça va pas mieux. Il y a quand même un écran où on voit le président du Brésil.
Quand elle parle de génocide.
On est d'accord. Donc, si vous voulez, il y a quelque chose de ces photos qui sont fortes et en même temps nous mettre dans une transe alors que c'est une responsabilité qu'on doit avoir. Je pense qu'il y a, un moment où l'exposition militante, pour moi, elle m'a quand même gênée.
Ingrid de Kegada.
Alors pour moi, ça intervient aussi à un moment très important de sa vie. Puisque, enfin, sa vie à elle traverse quand même toute l'histoire de la modernité, d'un génocide à l'autre. Puisque elle naît en Transylvanie, qui a appartenu à la Hongrie et à la Roumanie, et donc elle naît en 1931, c'est-à-dire que la famille de son père, elle est suisse allemande par sa mère, mais la famille de son père, qui est juive, va être déportée dans les camps. Et donc elle arrive à l'adolescence, à l'âge adulte, avec ce souvenir-là. Et donc elle va émigrer à New York, après elle va aller au Brésil, et donc arriver chez les Yanomami à partir des années 70. Donc sa vie sera en effet consacrée aux Yanomami, mais maintenant cette vieille dame, elle a comme ça le retour sur toute sa vie, et donc elle a vraiment cette conscience d'un retour de l'histoire, d'un génocide à un autre, qui est le génocide de l'Europe dans les années 40, qui est aussi le génocide des Yanomami à partir de la dictature militaire dans les années 70-80, et donc qui se reproduit aujourd'hui. Et on sent chez elle, notamment par les deux films, qui reprennent ses photographies de manière cyclique et de manière comme ça répétitive et rituelle, qu'elle est en train de sortir de l'histoire pour nous montrer par la puissance de l'image, justement, comment l'histoire n'est pas un processus linéaire, mais se répète encore et encore. Et donc c'est là où je pense qu'il y a une vraie attention à apporter vraiment aux images et à cette dimension d'intériorité par rapport à l'histoire qui se répète et non pas seulement comme une documentation. Puisqu'il y a quand même un statut aussi des images qui change. En effet, l'exposition est divisée entre le haut, qui est comme ça l'arrivée dans un peuple encore préservé, où on nous montre les traditions, on nous montre l'habitat, on nous montre ces trans, et le bas qui marque le moment où la forêt va être ouverte, où une route va être construite, et les orpailleurs et les maladies vont arriver. Mmh. Et donc en bas, on est plutôt dans un registre d'images qu'elle pensait être documentaire, puisqu'elle s'efforce de faire des portraits des Yanomami pour qu'ils puissent être vaccinés, donc avec une plaque en termes de documents d'identification. Mais maintenant, les images qui ressortent, et le choix qui a été fait par également le curateur de l'exposition, Thiago Nogueira, dont il parle, c'est de montrer aussi des images ratées, des images où il y a une double exposition, à la fois les portraits et la forêt qui les entoure. Donc ces photos qu'elle ne montrait pas puisqu'elle avait déjà arrêté d'être artiste pour vraiment devenir militante par la photographie, aujourd'hui elle se remet à les montrer et à se dire que finalement les photographies comme ça beaucoup plus immersives et beaucoup plus intérieures auraient un poids beaucoup plus fort pour faire changer les consciences que les simples photographies documentaires. Donc je pense qu'il y a vraiment un basculement qui est en train de s'opérer également dans la teneur et la nature de ces photographies et qui sont également une vraie confiance dans la puissance des images par-delà les discours.
Yasmine Yossi.
Ça, je ne sais pas si c'est elle qui pense à ça ou si c'est les commissaires qui, justement, travaillent sur les images et les réadaptent à...
Les films, ça viendrait d'elle, apparemment.
Ouais.
C'est la superposition, là.
Les deux films, où elle reprend un peu toutes les photographies, elle les agence.
Ce que j'ai vu, c'est vraiment une immense photographe. Ouais. Vraiment une immense photographe avec un sens de son médium et oui, photographe avant d'être artiste, quoi, dans cette manière de s'emparer de l'image avant, et côté très documentaire qui m'a vraiment beaucoup marqué. Je trouve que C'est très intelligent la manière dont ils ont organisé cette exposition, vraiment en deux volets. Alors effectivement, c'est une exposition militante, hein, dès le titre, dans le titre, hein, déjà la lutte des Yanomami, on sait où on va. J'ai pas du tout ressenti ce que dit Corinne, c'est-à-dire qu'on est à observer ce génocide.
Le premier niveau est un niveau anthropologique, vraiment. Il y a beaucoup d'informations, il y a des films comme on prépare la poudre hallucinogène, le rapport du chef avec la photographe, etc. Et puis effectivement, la deuxième partie qui est plus dure, mais où il y a d'autres choses. Moi, je trouve que les dessins des Indiens sont extraordinaires.
Ils sont, mais oui, mais elle est très très riche.
Mais justement, c'est ça. Mais moi, je veux la mettre là où elle est, sur un militantisme. Et je suis pas d'accord avec l'idée que l'histoire se reproduit. Je suis pas d'accord. C'est une histoire personnelle.
C'est une histoire personnelle.
Et d'ailleurs, elle est très amoureuse, adolescente, d'un jeune garçon qui va finir à Auschwitz en 44. Et elle portera très longtemps, un pendentif, un médaillon où il y a la photographie. Ouais. Et quand elle photographie ses numéros, évidemment.
Mais ça renvoie ça.
D'accord, mais faut pas en généraliser, voyez. C'est l'histoire d'une femme qui se bat.
Oui, oui, mais elle porte ce discours-là.
Non, mais d'accord, mais je veux dire, il ne faut pas non plus en faire une histoire en disant c'est la prise de conscience.
Non, mais
c'est quelqu'un qui se bat.
Et
ce qui est important, c'est que pendant que nous, on parle, elle a 90 balais, elle ou 80, elle se bat.
C'est pas d'aujourd'hui, hein, qu'elle.
Non, mais bien sûr que ce n'est pas d'aujourd'hui, mais enfin, les Indiens non plus, ce n'est pas d'aujourd'hui qu'on sait qu'ils se font. Voilà, vous voyez, je veux dire, il y a un moment donné, en 40, on pouvait dire les mêmes choses, après, on n'a rien fait. Oui, donc à un moment donné, qu'est-ce qui se répète? La destruction ou le fait qu'on fasse rien? C'est ça le problème. Oh mince, ma bouteille.
Qui tombe. Oui, vous voulez terminer, oui. Yasmine aussi.
Et alors, par rapport à la mise en espace, je voulais juste rajouter, c'est vrai qu'en fait, il y a.
Bah, moi, je cherchais le nom du responsable de la scénographie, je ne l'ai pas trouvé.
Parce que c'est vrai qu'il y a deux manières,
moi, je trouve pas
trois,
ça la fin
peut-être,
tout,
de rentrer dans l'exposition.
Étouffant.
Donc, il y a beaucoup de. Bon, les photographies,
je étouffant. Ah, alors, je pense que ça dessert absolument les images.
Ouais, c'était ma première impression. Je pense qu'on peut les lire vraiment de deux manières. C'est-à-dire, les textes.
Vous y êtes.
Les textes sont quand même. Les textes sont cantonnés au mur. Ouais. Et donc, on peut tout à fait circuler entre les images en restant au milieu. Et j'ai l'impression qu'il y a quand même deux manières de circuler entre les différents niveaux de.
Ouais, moi, c'est un côté Luna Park qui m'a.
Ah non, pas du tout, au contraire.
C'est vraiment essayer de. Ça aurait été difficile de montrer les images, enfin, les photographies sans justement tout cet entourage textuel.
Oui, avec l'entourage textuel, aussi bien les paroles des Yanomami eux-mêmes que des explications qu'elles donnent. Et au contraire, vous êtes vraiment. Elles vous entraînent au cœur de cette forêt. Et par l'image et par la scène. Et par les
textes. Cette salle à la fin, là.
Laquelle?
Bah, la salle immersive, genre rentrant en transe, on vous montre des images qui n'arrêtent pas d'être saccadées.
Au rez-de-chaussée?
Non, en bas.
Ah, en bas, avec ces films sur plusieurs écrans, là. Ouais.
Ouais.
Bah, moi, non. C'est pas possible, quoi.
Ah, moi, c'est pas. Je suis d'accord avec vous, okay. C'est pas ce que j'ai préféré.
Non, non, mais il y a des choses.
Mais par contre, l'articulation entre les deux. Et la richesse d'avoir amené ces dessins des Yanomami eux-mêmes, j'ai trouvé que ça apportait, ça nous emmenait encore plus loin dans l'exposition.
Exposition de Claudia Andujar, la lutte Yanomami, elle est à voir jusqu'au 10 mai à la Fondation Cartier, boulevard Raspail à Paris, fondation qui édite le catalogue. Après Paris, l'exposition sera présentée à Milan, à Winterthur en Suisse et à la Fondation Mapfre en Espagne. Et avant de conclure cette émission, le jeu de la dispute avec le lâcher de l'heure qui nous a rejoint, qui va nous révéler enfin la réponse à la question du jeu d'hier soir. Mais d'abord, nous rappeler la question.
Qui est le réalisateur de La Graine et le Mulet? Et la réponse est Abdelatif Kechiche.
Ce soir, des invitations à gagner pour Mickey and the Bear, un film d'Annabelle Attanasio qui est sorti aujourd'hui sur les écrans. Quelle est la question, Lola?
Quelle actrice interprète le rôle de Mickey Peck dans le film?
Votre réponse, ainsi que vos coordonnées postales, envoyez à auditeur@radiofrance.com. Cette émission était préparée par Aïssa Tundoy, Lucille Como, Boris Pinault, Lola Schidler, prise de son ce soir Sylvain Latour, réalisation Alexandre Fougeron. Toutes les informations sur cette émission sont à retrouver sur notre site internet franceculture.fr à la page de la dispute, un site sur lequel on peut réécouter ou s'abonner au podcast de l'émission. On se retrouve demain à 19h pour une dispute spéciale qui sera tout entière consacrée à Claire Bretéché, dont on a appris hier la disparition. Je serai en compagnie de Florence Sestac, d'Isabelle Bastien-Duplex et d'Antoine Guillot.